Il y a eu quelques petits détails à corriger. Je suis aumônier de l'UNIAPAC, c'est-à-dire de l'Organisation internationale des patrons chrétiens. Voilà. Alors, écoutez, je crois que vous avez tous reçu le plan de Gaudium et Spes. Donc, je vais en gros suivre ce plan et naturellement pas commenter tout, mais quand même reprendre certains détails et certains points plus importants. Voilà. Je fais une petite introduction avant d'aborder le document comme tel. Donc, c'est Gaudium et Spes, une constitution pastorale, l'Église dans le monde de ce temps. Constitution, vous savez, c'est marqué, je crois là d'ailleurs, c'est que c'est voulu comme un document tout à fait fondamental du Concile. Il y a des décrets, il y a toutes sortes de dénominations. Déclaration, ici c'est voulu comme un des quatre axes fondamentaux du Concile. Donc c'est un document qui a toute son importance et que les papes, à la fois Jean XXIII et Paul VI, ont vraiment voulu. C'est un document très volumineux, c'est le plus long, je pense, et il a ceci de. Je dirais de particulier, c'est qu'il est nommé pastoral et ça a été voulu vraiment par Jean XXIII et Paul VI. Ça veut dire surtout que c'est un document qui veut en quelque sorte accompagner finalement tout le monde, chrétien, non chrétien, guider, orienter les hommes de bonne volonté dans cette époque. Qui, vous vous rappelez, a été quand même une époque assez mouvementée. Il suffit de rappeler la crise de Cuba, la guerre froide, etc. Et pastoral veut dire aussi, c'est qu'on ne veut pas faire un document trop doctrinal et dogmatique. Donc on veut orienter, accompagner. L'Église, eh bien, l'Église, c'est naturellement ce document-ci a été écrit, disons, a été voté le dernier jour du Concile. Donc, l'avantage, c'est que tous les autres ont été déjà votés. Et donc, Lumen Gentium est là depuis longtemps. Et donc, quand on dit Église, c'est effectivement l'Église telle qu'elle est définie, décrite par Lumen Gentium, mais on pourrait dire c'est surtout l'Église comme peuple de Dieu, hiérarchie, baptisée, tout le monde ensemble. Et c'est cette Église qui est surtout perçue ici comme cheminant avec. Il y a toutes sortes de choses et toutes sortes de manières pour l'Église de se situer, mais je crois que si on la voit comme cheminant avec, le père Martelet a dit, cette constitution et la christologie qu'elle comporte, c'est plutôt, on pourrait dire, l'Église comme le Christ d'Emmaüs qui rejoint les gens sur la route. Ce n'est pas l'Église ou le Christ de Damas qui va ébranler de manière terrifiante, ce n'est pas non plus le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Christ qui rejoint pour écouter, pour parler, pour être solidaire. Et le monde, naturellement, dans le document, les nuances changent. Mais on pourrait dire en gros, c'est quand même toute l'humanité dans son existence terrestre, telle qu'elle est organisée avec ses, je dirais, ces nations, ces groupements et toute cette réalité historique. Donc, c'est un document qui se veut plus historique que, on pourrait dire, systématique. C'est un document qui veut coller à l'histoire. Et donc, peut-être moi, le monde de Saint-Jean, le monde qui est ténèbre et hostile. C'est le monde avec ses péchés et tout, mais ce n'est pas le monde opposé, hostile systématiquement. Mais donc, c'est aussi le monde avec ses réussites, ses échecs. En somme, peut-être a-t-on reproché assez fort, durant et après, que c'est une vue trop optimiste, comme une volonté de rejoindre ce monde, d'être avec, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû être plus critique, plus sévère, etc. Donc on a dit aussi, en fait, davantage une théologie de l'incarnation, Dieu en Jésus et, prolongement, son Église rejoint le monde, et ce n'est pas, pour certains, pas assez, une théologie de la rédemption qui vient sauver le monde et donc aussi qui marque la croix et qui veut donc aussi dénoncer et montrer le péché. Tout ça est présent quand même, justement, parce qu'on a déjà, pendant le Concile, on a beaucoup reproché que le péché n'était pas assez présent et qu'on était un peu trop favorable. Le monde, là, il y aurait des questions. Est-ce que c'est un sujet? Il y a l'Église, on peut dire un sujet, et en face, le monde. On n'a pas théorisé là-dessus, mais, disons, ce sont quand même deux réalités que j'ai essayé de décrire, et on pourrait dire dans le numéro 3, c'est marqué comme ça, c'est que le rapport que l'Église désire le plus accentuer, c'est décrit par le mot « servir ». L'Église veut servir le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi par rapport au monde, mais elle veut le servir religieusement pour l'aider à aller son chemin du salut, naturellement. Et on pourrait donc dire, c'est l'Église davantage dans le monde, pas du monde, c'est l'Église au monde, présent, et qu'on pourrait décrire aussi par les mots comme aide, dialogue, solidarité. Et puis, c'est une Église qui lit les signes des temps. C'est déjà dans Pacem in Terris que cette attitude-là est très fort soulignée. D'ailleurs, Pacem in Terris 1963 est très connexe et de la même mentalité. D'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé à l'un et l'autre qui font qu'il y a une certaine unité. Signe des temps, discerner les signes des temps, ça veut dire en quelque sorte voir que c'est une histoire. Et on essaie de percevoir ce qu'à travers les événements, ou des événements significatifs, Dieu nous dit et nous appelle. Qu'est-ce que, par exemple, pour aujourd'hui, qu'est-ce que cette crise financière signifie? Au-delà, on pourrait dire, d'une crise économique, financière, mais est-ce qu'elle aurait une signification spirituelle, théologique? Voilà. On est un peu dans cette ligne-là. Et donc, c'est aussi, de là, on voit déjà, ce n'est pas un document qui est construit dogmatiquement, et notamment avec, par exemple, une philosophie comme le droit naturel, etc. On a un peu laissé ça dans l'ombre. Certains ont reproché cela fortement. C'est donc cheminer, essayer de discerner ce qui se passe et de se laisser interpeller. Voilà un peu la ligne de fond. Qui a été voulu tel par les papes. Donc, on pourrait dire ceci, pas seulement une philosophie du droit naturel, mais aussi un retour à l'Écriture sainte, à la Bible, et en même temps une volonté vraiment de coller, de comprendre et de saisir à bras le corps le monde moderne, d'être avec. Donc voilà un peu les deux pôles. C'est donc moins, effectivement, une sorte de traité, de philosophie de droit naturel. Encore qu'il ne faut pas, mettre des divisions, etc. Mais le vocabulaire est quand même assez clair. Je dis quelques mots de la Genèse. C'est un document auquel on a travaillé tout au long du Concile. En 1962, il n'y avait pas un schéma ou un papier préparé par les congrégations qui reprenait cette problématique de l'Église dans le monde. Il y avait des problèmes d'éthique sociale, le mariage, la guerre, etc. Mais ce n'est que dans le début de 63, première session, qu'à un moment donné, vous vous rappelez peut-être que les pères ont dit tous ces schémas qui nous ont été préparés, ça ne convient pas. C'est une manière de parler qui n'est pas celle du monde, on ne veut pas accepter ça, notamment Sunens et d'autres. Et alors, on a dit, il faut en gros, Sunens, Jean 23 avait demandé à Sunens de montrer un autre schéma. Il a dit, on va organiser l'église ad intra et l'église ad extra. Intra, lumen gentium, extra, gaudium et spes. C'est très schématique, mais ça dit quand même un petit peu ce qui s'est fait. Et alors, tout au long des sessions 63, 64, 65, on a travaillé à ce schéma. Il y a eu 5 textes des schémas aller-retour qui sont arrivés seulement en 65 dans l'aula des pères. Donc ça a passé à travers des commissions. Peut-être que vous vous rappelez, on parlait des lieux où des textes ont été élaborés, à Malines, à Zurich, à Riccia, etc. En gros, quand on regarde le texte qui est venu dans l'aula des pères, rédigé d'abord par un moraliste allemand, le père Hering, et puis repris par un chanoine français, le chanoine Hauptmann. En somme, vous avez dans les chapitres, dans la première partie, l'Église et la vocation humaine, vous avez en somme une anthropologie chrétienne. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à dire au monde, nous ? Eh bien, on peut leur dire quelle est notre manière de comprendre l'homme, l'humanité. Et la deuxième, c'est de dire, oui, mais pastoralement, c'est peut-être pas mal de dire aux hommes, voilà ce que tu es et voilà vers où tu vas, mais il y a aussi une question, est-ce qu'il y a des problèmes urgents, cruciaux, difficiles ? Et on en a énuméré 5. Je ne vous épargne toute la discussion, que faut-il faire avec l'un, avec l'autre. On a même parfois voulu renoncer et ne pas avoir de document parce que les discussions étaient trop difficiles, etc. Mais finalement, donc c'est un document un peu mixte, une partie plus, on pourrait dire, théologique et doctrinale, peut-on dire, qu'est-ce que c'est, selon la vision chrétienne, l'homme. Donc, anthropologie chrétienne, et puis 5 problèmes fondamentaux. On aurait pu dire aussi, on a voulu dire quel est pour l'Église le sens de l'existence humaine, des efforts humains, du monde, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, vocation de l'homme. Alors, ce document a été critiqué très fortement. On a fait des bagarres jusque le dernier jour. Il a été très bien voté, mais il y a eu des bagarres, notamment au niveau de la question nucléaire et de la bombe, etc. Donc ça a été assez dur comme affrontement, 20 000 corrections proposées, et finalement, vote 75 contre, 2309 pour, et quelques invalides, le 7 du 12 65. Voilà, donc voilà le document tel qu'il a été voté. Il faut un peu de patience pour le lire, mais ce n'est pas insurmontable. Exposé préliminaire. Donc, avant de commencer avec la première partie, voilà ce que c'est que l'homme. On a dit, oui, mais c'est un document historique où nous voulons rejoindre ce monde. Mais qu'est-ce qu'il est ? Donc, petit texte qui a été probablement rédigé, notamment par François Houtard. D'ailleurs, beaucoup de théologiens belges ont collaboré fortement à ce document. Et de quoi s'agit-il ? C'est, nous devons, alors ça on a critiqué, aggiornamento, il faut s'adapter, non, il faut nous mettre dans l'actualité historique de ce monde actuel, qui est donc, je dirais, marqué par beaucoup de choses qu'on va énumérer. Je crois, Ratzinger, quand il était encore... quand il n'était pas encore pape, a écrit un livre, « Mon concile », et il insiste beaucoup sur l'influence des sciences et des techniques. C'est probablement vrai quand on essaie de marquer le monde actuel comme concile. Le précédent Vatican I était au 19e siècle. Eh bien, c'est vrai, notre monde est quand même affronté. Science, technologie, c'est quand même quelque chose de très important. Naturellement aussi, sécularisation, tout ça vient. Vous pouvez lire ça. C'est aussi une manière de saisir ce qu'on disait du monde il y a en 1965. On ne dirait plus maintenant comme cela, c'est normal. Peut-être que la tension dans le document, et finalement souvent dans ce document, c'est à la fin d'une partie que surgit alors, je dirais, la figure du Christ ou le jugement le plus qui recueille une synthèse. C'est un document qui chemine, qui essaie de parler à tout le monde, et puis à un moment donné, on dit voilà, voilà alors l'opinion ou l'option chrétienne par rapport à cela. Et sans doute à la fin, donc, on dit ceci, c'est quand même, cette période est marquée par une sorte de tension, par une division intérieure à l'homme, c'est le péché, l'homme est blessé, mais cette blessure se marque vers l'extérieur, pas seulement dans la psychologie, mais aussi dans les relations humaines, dans l'économie, et donc dans ce monde auquel l'Église se sent envoyée. Donc on pourrait dire, lecture du monde met quand même en sous-main une interprétation en disant, c'est un monde blessé. Voilà. Donc vous pouvez lire une fois cette introduction, c'est bien fait, mais elle date naturellement maintenant. Je passe à la première partie, donc nous sommes maintenant chapitre 1er, numéro 12 et suivant. Alors là, c'est donc, je dirais, trois chapitres qui vont dire l'homme, comment le caractériser? Eh bien, l'homme est une personne digne par sa liberté, par sa conscience. Et puis, l'homme est aussi un être de société qui vit en communauté. Et l'homme est un être qui agit. Et quel est le sens de son agir? Et puis, on va continuer, mais c'est quand même une première orientation assez importante. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, effectivement, et je voudrais aussi souligner cela, l'apport, je crois, au point de vue social du christianisme dans, je dirais, dans l'histoire du monde, c'est quand même d'avoir souligné, à partir de cette notion de, on pourrait dire, l'homme image de Dieu, on pourrait dire aussi à partir de la croix, Jésus-Christ a donné sa vie pour chaque homme, pour vous, pour moi. Et donc nous sommes aimables, nous sommes dignes, chaque personne humaine est digne. Ça c'est quelque chose probablement d'unique dans l'histoire humaine. L'homme est perçu souvent comme appartenant à un groupe, il vaut par son groupe. Il est inséré dans son groupe, que ce soit dans des castes, dans des partis, etc. Ici, c'est l'homme image de Dieu qui est caractérisé par sa liberté et sa conscience et qui est, pour l'Église, l'homme dans sa dignité est la finalité de l'univers. Donc, c'est pas comme dans des visions scientifiques ou scientiste, ici, l'univers est finalisé. L'homme est, en quelque sorte, à la pointe. Et l'homme par excellence, là où nous savons ce que c'est que l'humanité, c'est le Christ. Donc voilà un schéma de ce... On commence à dire, voilà la situation de l'homme et on définit la vision qu'on a de l'homme et il y a un accomplissement qui est vu dans le Christ. Voilà, donc, c'est, je crois, au niveau du monde actuel, maintenir les droits de l'homme sont sortis de là. Dignité de chaque personne, y compris et surtout les plus pauvres. Voilà quelque chose qui est banal, mais qui n'est plus sûr dans le monde à venir. C'est aussi une personne en relation, une personne qui naît de la relation, qui s'engage dans les relations. C'est le chapitre 2. Et donc aussi, là, c'est l'amour fraternel qui soude ce groupe. Et vous avez alors, effectivement, interdépendance, engagement pour le bien commun. C'est pas seulement une société individualiste, chacun a sa place, mais il doit collaborer au bien de cette communauté qui est pour lui aussi le milieu dans lequel il vit. Alors, dans cette communauté, il y a naturellement une égalité fondamentale. C'est pas parce que tu es de telle religion, parce que tu es de tel sexe, etc., que tu es plus digne. Donc il y a là une force extraordinaire sociale aussi, égalité des droits, etc. Voilà donc des choses qu'il faut souligner fortement et qui sont encore, je dirais, débattues aujourd'hui. La conscience morale, qui est donc le sanctuaire de la personne dans laquelle elle perçoit une loi qui ne vient pas d'elle-même, mais qui lui dit ce qu'elle doit faire. Vous voyez bien, ça a été contesté, la psychanalyse, par la biologie actuellement. Dernièrement, j'ai lu un livre d'un biologiste qui dit tout ça, c'est de la blague, la liberté, on n'a pas besoin de ça. L'homme est simplement dirigé par la biologie. Voilà. Ça a des répercussions énormes. Peut-on mettre quelqu'un devant un tribunal? Et etc. Alors, deuxièmement, une chose importante aussi, dans cette ligne-là, c'est alors de dire, voilà, l'homme est un être digne, autonome dans une société, il doit collaborer à ça, mais qu'en est-il de son activité? Faut-il agir? Et vers où est-ce que nous agissons? Est-ce qu'on tourne en rond? Et quel est le sens de mon agir? Alors on dit une première chose qui a été assez déterminante, dont on parle encore beaucoup maintenant, qui est une grosse question. On dit l'homme et ses activités sont dans une autonomie relative. Pas une autonomie absolue, comme si Dieu était l'homme et que l'homme n'a besoin de rien d'autre que lui-même. C'est un peu parfois une illusion qu'on avait en sciences économiques. L'individu est là, il n'a besoin de personne, c'est une sorte d'atome enfermé, une monade. Non, mais c'est quand même vrai que, notamment par sa conscience, par sa responsabilité, par sa liberté, on pourrait dire fondamentalement, c'est parce qu'une alliance d'amour exige la liberté, qui est donc une autonomie, je suis responsable de moi-même. Eh bien, effectivement, cette réalité de l'autonomie relative est très importante. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais même comme ça, le christianisme reste une religion, une anthropologie hétéronomie. Il y a une loi de l'extérieur, il y a un vis-à-vis, il n'est pas autonome. Et alors, il y a d'autres, naturellement, qui vont dans une toute autre ligne, qui disent, mais de toute façon, on ne parle pas d'autonomie et d'hétéronomie. Par exemple, il y a un flux unique qui est celui de la biologie, et donc tous ces mots sont en l'air, quoi. Voilà donc une première chose, l'Église prend position, et autonomie veut dire aussi quand même que l'agir, l'homme est la norme de l'agir. Si nous agissons, c'est pour faire advenir davantage l'homme, pour travailler pour tous les hommes et pour travailler pour tout l'homme. Et donc pour humaniser, c'est ça ce qui est la ligne de l'agir et du travail. Très important, mais naturellement, grosse question aussi, le Concile était conscient de ça aussi, le travail peut mener au meilleur et au pire. Regardons, le Concile va s'affronter à la question de la bombe nucléaire, technologie. L'homme est capable de s'auto-détruire. Certains ont dit même que c'est une sorte de prise de conscience fulgurante. L'homme est capable de se tuer. Et donc seulement maintenant, il est engagé à vouloir la vie, à avancer, puisque la possibilité est lui donnée pour la première fois de s'autodétruire. Voilà donc, travail, nous pourrions dire aujourd'hui, on est beaucoup plus loin. Le travail de l'homme aboutit presque à un moment donné qu'on veut créer une nouvelle genèse, l'homme qui va se créer lui-même par son travail scientifique et technique. Quel est le sens du travail? Quelles sont ses limites? Et donc, l'Église a réfléchi beaucoup là-dessus et elle dit ceci. Il ne s'agit pas de gagner le monde, hein, comme on dit dans l'Évangile, que l'homme conquiert le monde et qu'il s'y trouve comme une sorte de domination. Mais ce qui est en jeu, c'est que par son action, l'homme, notamment économique, il transforme le monde pour le rendre plus propice, plus agréable, plus comestible, plus habitable par les autres. Mon travail, c'est une manière, je vais un peu plus loin que le concile, mais c'est déjà à présent, où l'homme s'investit dans la matière, dans les relations, pour en faire un don à l'autre. Si le travail était vraiment respecté, ce serait comme un artisan qui travaille une pièce et qui veut la rendre apte et belle ou comestible par l'autre. Actuellement, dans un monde comme le nôtre, ça devient assez difficile si je tourne toujours le même écrou. C'est terrible, je ne vois pas beaucoup l'œuvre de l'humanité là-dedans. Mais quand même, c'est ça un peu qui évolue. Le travail, quand une maman prépare un repas, le travail, c'est qu'elle s'investit là-dedans. Elle s'y met pour que le repas soit bon et elle-même se donne à travers ce repas. Voilà le travail, c'est magnifique. Naturellement, on peut dire c'est de l'illusion. Mais là, il y aurait pour le travail une sorte de spiritualité laïque. C'est donc d'investir le monde par l'esprit d'amour, de le transfigurer. On pourrait dire c'est comme notre corps, mais c'est un élargissement de notre corps. Alors, quel est finalement, je termine la première partie, où j'essaie un peu, alors quel est le rôle de l'Église par rapport au monde? Eh bien, reviens là, je suis au numéro 41. On revient là à la terminologie de l'aide. L'Église aide le monde. Et comment est-ce qu'elle aide le monde? Justement, on pourrait lui dire en lui annonçant la bonne nouvelle et en l'engageant à la vivre. Elle lui révèle le sens ultime de son agir. C'est vrai, quand on peut dire à quelqu'un « Ton travail, ce n'est pas seulement boulot, métro, dodo, mais dans ton travail, tu construis d'une certaine manière déjà le royaume de Dieu, tu participes à ça », c'est quand même une vision assez, je dirais, assez enthousiasmante. C'est aussi la lutte pour le respect, la dignité. Comme disait il dit en tout cas, Dieu divinise ce que l'homme a humanisé. Donc, ce que nous avons à faire, et Dieu ne peut diviniser que ce que nous avons humanisé. Et donc, ce que nous avons à faire, c'est un monde plus humain. Populorum progressio, tout l'homme et tous les hommes, universalité et intégralité. C'est ça ce que nous avons à développer. D'ailleurs, vient aussi toute la problématique des pays pauvres, etc. Aide que l'Église apporte. Elle n'a pas à jouer aux politiques, à l'économiste, mais elle doit être partout présente en défendant la dignité de tous les hommes, en témoignant de cela, et d'une certaine manière, en essayant de guérir l'homme au plus profond, c'est-à-dire là où il est atteint par le mal, par les sacrements, par des témoignages, etc. Et ultimement, effectivement, l'homme est appelé à marcher ensemble vers le Christ, qui est le Christ de l'alpha et de l'oméga. C'est le Christ qui on pourrait dire, assume, rassemble toute l'humanité en son corps. Voilà une belle perspective qui est esquissée, anthropologie humaine, l'Église aide et elle reçoit de l'aide du monde. Ça, c'est une chose rare que l'Église dise cela. Nous recevons le monde, nous apporte aussi, finalement, l'Église, c'est tout le monde appelé, tout le monde est appelé, mais effectivement, le monde, avec tout ce qu'il est, les instruments, tout ça, est aussi un apport, naturellement, pour l'Église. Aide réciproque. Alors, je vais aborder maintenant, donc, voilà, une certaine anthropologie humaine, pas très sophistiquée, l'homme-personne, société, et l'homme qui travaille et qui travaille pour, je dirais, préparer le royaume des cieux. Alors, l'Église va aborder 5 problèmes urgents. Pour une fois dire, lesquels est-ce que je mettrais maintenant? Si je devais dire, voilà, 5 grands problèmes par rapport auxquels il faut se situer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, ici, il y en a 5, je vais vous les énumérer. Le mariage et la famille, il y a eu énormément de changements là-dedans, depuis lors. Deuxièmement, la culture. Troisièmement, l'économie, le social. Quatrièmement, le politique. Et cinquièmement, justement, le chapitre qui a donné le plus de soucis, sur lequel on s'est bagarré, etc., c'est la question de la paix, de la guerre et des relations internationales. Voilà les 5 grands problèmes. Certains ont dit, américains ont dit, ce concile, non, ce Gaudium et Spes traitait de pill and the bomb. De pill, c'est naturellement le mariage, procréation, mais le pape a dit, non, il y a une commission spéciale qui va traiter de la question de la... La pile, donc de la pilule, mais surtout donc de tout ce qui est les questions de limitation des naissances et contraception et tout, et tout, et tout, en dehors du concile. Le concile ne va pas parler de cela. On sentait déjà au concile beaucoup de mouvements autour de cette réalité-là. Et c'était un problème déjà très sensible. Et de l'autre côté, c'était donc de bombe, c'est-à-dire tout le rapport à la bombe nucléaire. Prenons quelques mots sur le mariage et la famille. Naturellement, le mariage et la famille sont la base de la société. On veut une vision moins juridique, moins, on peut dire, moins institutionnelle, tout le concile, tout le... Gaudium et Spes veut davantage la ligne du personnalisme. Personnalisme, histoire, moins ordre naturel. Et donc, le mariage, c'est un engagement de personnes qui s'aiment. Donc, on va souligner cette double ligne, personne, amour, à travers l'acte conjugal. La procréation est naturellement, comme on dit, intrinsèquement, intérieurement, lié à l'acte conjugal qui est conçu comme un don. Mais le concile ne va plus utiliser l'ancienne terminologie de saint Augustin, de saint Thomas avec les fins et les biens. Elle va laisser ça de côté. Elle n'a pas beaucoup pour le remplacer. Mais elle est quand même au niveau où elle dit il faut unir l'union conjugale et la procréation. Mais naturellement, surgit là le problème fondamental. Est-ce qu'il y a une place pour une contraception, etc. Donc ça ne va pas être lié là. Mais on a refusé, comme avant, de hiérarchiser en disant c'est uniquement la procréation. Non, c'est l'union dans l'amour et la procréation. Fécondité humaine est logée la responsabilité au niveau des couples et pas des États. C'est très important parce que commencent à ce moment-là les grandes politiques antinatalistes et les États vont faire des politiques démographiques très sévères en Inde, en Chine, et, etc. Et ce discernement, donc la fécondité, est un problème éthique que les couples doivent discerner dans un dialogue. Paternité responsable. Et alors, effectivement, respect de la vie humaine dès la conception, ça a son importance parce qu'un des évêques dit « Si nous sommes tellement exigeants à ce niveau-là, comment pouvons-nous tuer des gens en millions, en dizaines de millions ? Ça ne va pas. » Et donc, il faut défendre la vie dès le début, mais aussi lutter contre la guerre. Comment pouvons-nous tuer des millions de gens en une fois et en même temps dire voilà, on ne peut pas pratiquer l'avortement. Donc c'est assez important. Je veux souligner aussi que cette question de l'union et de la procréation est quelque chose d'assez fondamental. Parce que c'est quand on dessert ces deux réalités l'une de l'autre, eh bien, on va un peu dans ce que nous sommes en train de vivre, notamment avec les théories du gender et avec les questions de sciences et technologies qui veulent pratiquer la fécondation, je dirais notamment par les techniques, etc. Donc, c'est un enjeu assez important, mais c'est aussi quand même, il faut le dire, quand Humane Vitae va paraître, c'est quand même un moment de l'Église où le rapport à la hiérarchie a été mise en question, quoi. Deuxième, la culture. Culture, très important maintenant. La culture, vous voyez bien maintenant, avec la présence de l'islam ici, avec les réalités au niveau mondial, l'affrontement des cultures, etc. Et l'Église, dans ce texte, a mis effectivement le concept de culture moderne. Pas seulement culture, ce monsieur connaît bien l'histoire de l'art, il a lu beaucoup de livres. Non, comme disait le chanoine d'Onden, la culture est en fait ce que, à un moment donné, dans un groupe, une société, les gens conçoivent, comment ils conçoivent leur vie et leur existence et comment ils l'expriment. Donc la culture, c'est aussi bien la morale, on pourrait dire aussi l'économie, le politique, mais aussi le juridique, c'est un peu, et les idéologies, les langues et tout ça, c'est un ensemble. Et alors, comment faut-il comprendre la culture? Eh bien, à partir de là et plus tard, l'Église a fortement mis l'importance sur l'évangélisation de la culture. On pourrait dire que la culture est devenue le lieu le plus important pour l'annonce de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est effectivement là qu'on peut influencer la manière dont une population ou une personne se représente le monde. Si quelqu'un a en tête, comme en Yougoslavie, que les Serbes sont pires que n'importe quoi que je peux imaginer à cause de l'histoire, de ma culture, on va vite vers la violence. Et donc, c'est au niveau de la culture qu'il faut travailler pour guérir l'homme. Et alors, effectivement, surgissent là un tas de questions. Est-ce qu'il y a un lien entre foi et culture, entre culture et politique, entre l'éthique et la culture? Par exemple, on a maintenant beaucoup de cultures, d'ailleurs c'est très difficile de dire où est une culture où il n'en a pas, parce qu'on pourrait parler de la culture des jeunes ici à Bruxelles, ou parler de la culture chinoise. Vous voyez l'énormité de différence. Mais si on regarde ça au même niveau, les grandes cultures humaines, est-ce que la morale est intérieure à une culture ou est-ce qu'elle juge les cultures? Est-ce que les cultures doivent en quelque sorte se mesurer à l'éthique? Ou est-ce que chaque culture a sa propre morale? L'Église maintient que la culture, les cultures sont encore soumises au jugement de l'éthique. Et donc, ce n'est pas comme si je disais, ça c'est de la culture occidentale, par exemple pour les droits de l'homme, et nous n'acceptons jamais ça. Non, l'éthique a une critique à adresser à la culture. Est-ce que une foi, la foi et la culture sont liées? Oui et non. C'est-à-dire qu'on essaie d'inculturer la foi, hein, vous connaissez ça, on essaie d'adapter, ça a été des travaux extraordinaires, rien que pour la liturgie, pour traduire les livres liturgiques dans une langue, pour traduire les Bibles, etc. Donc, inculture, et en même temps, la foi se dit comme n'étant pas liée par une culture. Je ne dois pas devenir de culture européenne pour devenir chrétien. Ça a été souvent, enfin, anciennement conçu comme celle-là. La question pour l'islam, est-ce que l'islam est à la fois croyance, foi, culture et politique? Voilà des questions tout à fait fondamentales et globalement, on dira donc que le pouvoir politique ne peut pas imposer une culture. Elle surgit à partir d'autres facteurs de la société civile, etc. Et donc, la foi et la culture ont quelque chose à voir au sens où une inspiration d'amour peut essayer de s'incarner dans une culture, mais effectivement, je peux être arabe sans être musulman. À peine imaginable pour un certain nombre de gens. Donc, c'est une question assez subtile et nous sommes devant un très grand défi. Nos sociétés sont devenues multiculturelles. Qu'est-ce que ça veut dire de, à la fois de vivre ensemble et de respecter la culture de l'autre? L'Église dit, attention, la culture moderne, c'est-à-dire culture scientifique et technique issue de l'Europe, est en train de submerger tout. Elle écrase, elle minimise tout. Non, il faut respecter les autres cultures. Donc il y a là un enjeu très très grand et je crois que nous sommes loin de l'avoir résolu. La question économique et politique et je dirais ces deux questions-là, je ne vais pas en parler tellement parce que en somme, là, on reprend presque la longue histoire de la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église. On est proche de Mater et Magistra, de Pacem in Terris, quelques années après, c'est Populorum Progressio, c'est le pape Jean-Paul II sur le travail, sur le monde, etc. Donc, on se trouve là dans une longue tradition. L'Église a parlé sur l'économique, sur le politique, etc. Donc il y a eu de gros pas et d'une certaine manière le Concile n'innove pas tellement. Mais il parle de développement maintenant, très important. Il renverse la hiérarchie entre la propriété qui était toujours première et le travail. C'est maintenant le travail qui est premier. La propriété vient après, hiérarchiquement et éthiquement, pourrait-on dire. Voilà un certain nombre de choses qui sont dites là, mais en même temps, je ne crois pas que c'est là que se trouve la nouveauté de Gaudium et Spes. Si vous relisez toute l'histoire de la doctrine sociale, vous êtes dans le bon courant. Il faut dire aussi qu'on a en même temps, quelques mois avant, je crois, on a voté la fameuse déclaration sur la liberté religieuse, qui est quand même un point central sur la relation entre l'Église et la société et l'État. Donc, ce sujet avait déjà été traité. Je vais passer maintenant, pour terminer, à la question de la paix et de la guerre. Il faut dire qu'on est dans une situation assez nouvelle. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que la guerre dans une société industrielle. On pourrait dire la guerre elle-même a été transformée par le fait qu'on soit devenu une société industrielle. On tue industriellement. On tue maintenant avec l'atome. Et ça va continuer comme ça. Je crois qu'on a aussi des industries chimiques qui veulent tuer. Donc, la guerre est en somme un phénomène culturel politique. C'est des sociétés qui se livrent la guerre avec les moyens qu'ils ont et la culture qu'ils ont. Donc, il faut essayer de lutter contre cette violence fondamentale quand l'Église dit « j'aide le monde à devenir plus humain et à entrer dans la relation avec Dieu, devenir fils et fille de Dieu ». C'est là ce qu'elle a en vue. Et donc, j'étais sur le lit de maladie, peut-être même de mort, du père Dubarle, qui était un dominicain, qui était le secrétaire pour cette commission-là sur la guerre. C'était un grand scientifique. Et il m'a dit sur son lit de maladie, il faut dire aux gens que c'est dans ce document-là, dans cette partie-là de Gaudium et Spes, que se trouve la seule condamnation qui a été voulue très solennelle du concile. Parce que les conciles, c'est généralement des anathèmes, hein, tous ceux qui pensent qu'ils aillent au diable, enfin presque, etc. Tandis que le concile ici était plutôt du type pastoral, on accompagne. Mais là, il y a eu un arrêt sur lequel tous ces gens se sont mis d'accord parce qu'il y a eu beaucoup de bagarres entre eux, mais une chose les a maintenus et le concile a voulu dire « ça c'est avec notre autorité de concile du pape ». Et de quoi s'agit-il? C'est au numéro 80, paragraphe 4. Je vais vous le lire, c'est important parce que c'est une manière pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et voilà, 80, paragraphe 4. « Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. » Les Américains n'ont pas aimé, hein? Parce que ça, c'est naturellement ce qui s'est passé au Japon, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et les destructions contre les Allemands, Dresde, etc., mais aussi Coventry, ce que les Allemands ont fait à l'Angleterre, etc. Mais en globalement, donc, ici, on dit on ne peut pas tuer de manière indiscriminée, lancer une bombe. Mais naturellement, ça pose des problèmes gigantesques parce que la France a comme théorie militaire nucléaire la dissuasion du faible au fort. Monsieur Brejnev, si vous nous attaquez, nous allons simplement faire éclater vos villes. Nous tirerons sur vos villes. Dissuasion du faible au fort. Tout ça n'est pas fini. Le point actuellement avec l'Iran, on ne rigole pas. Hein? Israël, l'Iran, ce serait une question peut-être, je dirais, pire que ce que nous avons avec l'euro maintenant. Donc, sont des problèmes de fond. Et j'ai parlé pratiquement avec tous les évêques et dignitaires qui ont travaillé à ce texte. Et je vais dire ce qui n'est pas dans le texte, mais ce qu'il faudrait probablement admettre, c'est que ce texte donc interdit une dissuasion qui se mettrait en œuvre et qui donc serait conçue comme une riposte, même riposte par rapport pour exterminer l'autre, n'est pas autorisée. Donc, est-ce que, en terminologie de défense légitime, je peux faire ces actes-là? Eh bien, ceux qui ont écrit, sans qu'ils l'ont mis dans le texte, disent que ce n'est pas autorisé. Quand on voit actuellement Israël, qu'est-ce qu'il ferait? Voilà des questions. Et donc, il y a aussi la question en dessous, est-ce que je peux menacer de le faire? Dissuasion. Brejnev, si tu fais ça, je fais décoller mes missiles et ils vont te détruire. » Un officier a dit, « J'ai depuis toujours décidé que je n'appuierai jamais sur le bouton. » Si on me le demandait, « Commandant de sous-marin. » Et un autre a dit, « Je démissionne. » Parce que je ne le ferai jamais et donc je ne peux pas continuer à rester là. Donc vous voyez les problèmes que ça posait et devant lesquels nous sommes un petit peu. Voilà. Donc c'est la seule condamnation du concile, très, très forte je crois. En même temps, si vous l'avez bien remarqué, on n'a jamais employé le mot de nucléaire ou d'atomique. On n'a pas condamné une arme, mais on a condamné des actes humains, si vous faites cela. Alors, naturellement, ça a suscité des discussions, des trucs sans fin, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais si vous ne maintenez pas la dissuasion, vous rendez la guerre plus plausible. Ce n'est que, dit-on, sur l'histoire, que la dissuasion a empêché les guerres. Donc, on doit maintenir la dissuasion. Sur la dissuasion, le concile est resté perplexe en disant, oui, non, on peut... Jean-Paul II a dit vers 80 qu'une dissuasion qui vise à diminuer l'armement est encore légitime. Mais je n'ai pas vu de dissuasion qui a diminué l'armement. Hein. Mais donc, on a maintenu ça comme ça. Donc, l'Église, en somme, a été quand même, par rapport à son passé, beaucoup plus réservée par rapport à la fameuse guerre juste. Y a-t-il des guerres justes ? Saint Thomas, qui avait dit que toute guerre est normalement un péché. Mais... est-ce qu'il y a des circonstances où vous pouvez recourir aux armes? On a dit défense légitime. Et le concile dit aussi défense légitime, oui. Mais justement, pas avec n'importe quel moyen. Et puis, est-ce qu'au-delà, il y a des guerres qu'on peut commencer? Pacem in terris avait dit, on ne peut plus penser que la guerre moderne soit encore aujourd'hui un moyen raisonnable pour se faire justice. Donc, plus de guerre. Mais, guerre moderne, est-ce que c'est, ça dépend, etc. Donc, vous voyez, on peut discuter longuement là-dessus, mais la ligne de fond quand même de l'Église est devenue beaucoup plus sévère par rapport à la guerre. Et Jean-Paul II a marqué cela. Il a dit non à la guerre en Irak. Et en gros, l'Église est devenue plus réticente. Elle a même dit ceci, si on vous commande des gestes comme détruire des villes qui sont pas, disons, qui ne sont pas légitimables, vous devez vous opposer. Objection de conscience à des ordres qui sont des ordres non défendable éthiquement. C'est un fameux pas. Ça remonte jusqu'à Augustin. Parce qu'Augustin avait dit, si on vous commande, si l'autorité vous commande, c'est elle qui prend les responsabilités. Ici, non. Si on vous commande des choses qui sont indéfendables, vous devez dire non. Gros problème, hein? Et voilà, donc, on en est là, et alors l'Église dit, je suis presque à la fin, l'Église dit, pour en arriver là, on ne peut pas en rester simplement à parler de la guerre. Et c'est pour ça qu'elle a dit, je commence dans mon document à parler de la paix. Nous voulons la paix. Et la paix, pas simplement arrêt des armes, pas seulement des arrangements politiques, pas seulement éthique, justice, liberté, mais même nous devons accueillir la paix comme un don de Dieu. C'est Jésus qui est notre paix. Voilà à quoi il faudrait arriver. Et si on fait cela, naturellement, pour que la guerre n'arrive plus, il faut créer un monde juste et un monde qui respecte les droits de l'homme, etc. et qui advient finalement à ce que Pachamin Teris avait dit, une organisation politique mondiale. C'est encore loin et on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais ça devait être subsidiaire, ça veut dire que tout le monde doit être d'accord. Vous voyez, quand on parle d'Europe, on n'est déjà pas très loin, et quand on parle au niveau mondial, on est encore beaucoup plus loin. Mais ce que l'Église veut dire, c'est que pour qu'il n'y ait plus de guerre, il faut s'organiser politiquement. Il faut s'organiser politiquement, parce que ce n'est que par la médiation du politique qu'on organise le monde, qu'on le rend plus juste, etc. Il y a aussi là, et j'arrête, une petite incursion dans la démographie. L'Église dit, donc la responsabilité de la fécondité est du côté des hommes et des femmes. Il faut les éduquer pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités dans cette matière de manière éclairée, mais on ne peut pas, disons, influer sur la population, sur la démographie de manière directe, notamment par un régime de contraception ou d'avortement, ou par exemple, comme en Chine, où on dit si vous avez plus qu'un enfant, vous devez le faire disparaître, ou je ne sais pas quoi. Non, la question est d'élever le niveau de vie, d'éclairer les gens, de les rendre moins pauvres, éduqués, et par cette manière indirecte de... Vous savez que ça a été des problèmes gigantesques, hein, de discussions formidables où on a accusé l'Église, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le parcours.